Bonjour à tous et bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver sur Radio Judaïque à Strasbourg après ces deux émissions qui se sont passées puisqu'il y avait les fêtes des Pessahs et que nous n'étions pas sur place. Notre invité cette semaine est journaliste. Il est le présentateur de l'émission Dimanche en politique sur France 3. Bonjour Francis Le Tédier.
Bonjour Jean.
Merci d'être avec nous. Vous êtes un fidèle de l'émission, je crois. Hein. Vous
oui,
étiez là du premier.
Et c'est un plaisir à chaque fois, parce qu'à chaque fois, je me ressens reconnecté à Strasbourg avec vous. C'est génial.
Alors, oui, on peut expliquer pourquoi, puisque vous avez fait vos études de journalisme à Strasbourg.
Exactement, au QEJ à Strasbourg. Et depuis, j'ai l'impression que j'y suis toujours. Vous voyez, une fois qu'on a mis les pieds à Strasbourg, on y est pour toujours. Donc voilà. Donc ça me fait plaisir à chaque fois. Et puis, ça fait des choses à Strasbourg ces dernières semaines.
Oui, on va en parler dans un instant. Moi, je voulais vous poser une question un peu personnelle. On sait que vous venez de la campagne, vos parents étaient paysans, je crois. Est-ce que ça vous arrive de revenir chez vos parents, dans votre ville natale, où c'est très compliqué quand on a une activité politique aussi importante?
Ah non, je me garde des moments où je reviens effectivement dans mon île, parce que d'abord j'en ai besoin, parce qu'il faut que j'aille voir ma famille, c'est normal. Ensuite parce que c'est là que j'ai tout appris, hein, y compris la politique, j'ai appris sur le terrain, donc j'ai appris là. Et d'ailleurs j'ai été récemment, il y avait un hommage à Olivier Stirne qui a été pendant 30 ans maire de Vire, que j'ai connu quand j'étais gamin et que j'ai connu ensuite après quand je faisais des remplacements à Ouest-France quand j'étais étudiant. Uh-huh. Et il y avait un hommage à Olivier Stirne qui est décédé au mois d'août dernier, et j'ai tenu à y être, parce que pour moi, c'est toute une page de l'histoire. C'est avec ces gens-là aussi que j'ai connu la politique et j'ai vu ce que c'était que la politique. Donc, vous voyez, j'y retourne quand même assez régulièrement quand même. Et ma mère m'y attend régulièrement.
Voilà.
C'est normal.
À Vire, il faut dire qu'il y avait, y a beaucoup de gens qui viennent de Vire. Michel Drucker, notamment, et l'ancien patron de TF1, Patrick Lelay, qui venait aussi de Vire.
Et il y a aussi, par exemple, Dominique Bettner, qui est agent de Star, que vous connaissez peut-être. La députée de Vire aujourd'hui, c'est Elisabeth Borne. Vous voyez, ouais. Il y a du monde à Vire. Hein.
Alors, je veux
aller, c'est l'endroit où il faut être, Jean.
Oui, en fait. D'accord. Après Strasbourg, alors.
Ah ouais, après Strasbourg, ouais. Évidemment.
Alors, on va évidemment, avant de parler de la campagne et de vous écouter un peu, il y a deux événements que je voudrais dont avoir votre commentaire. Le premier, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps, c'est lors de la campagne législative, couac total sur les duplex que vous voulez lancer. Moi, je me suis posé la question, vous avez une oreillette, qu'est-ce qu'on vous dit dans l'oreillette à ce moment-là?
Eh ben justement, Jean, c'était le drame ce soir-là, c'est que personne ne me parlait dans l'oreillette. C'est-à-dire que, pour tout vous dire, il y avait une telle panique technique que j'ai meublé l'antenne pendant quelques minutes en ne sachant pas où j'allais et où nous allions. Et j'avais beau dire ou faire des gestes, on ne voyait pas l'antenne bien sûr, ou qu'est-ce qu'on a après, personne n'était capable de me dire ce qui allait être après en ligne.
Bon, vous n'avez rien dans l'oreillette.
Rien. Et puis au bout de deux minutes, quand même, quelqu'un m'a parlé en disant « Bon, maintenant, on fait ci, on fait ça, on va là, on va là. » Mais c'était quand même un peu panique totale. C'était très rare quand on ne me parle pas dans l'oreillette, parce que l'oreillette, elle est faite pour ça. Donc ça veut dire que le fait que personne ne me parle dans l'oreillette à ce moment-là, c'est qu'il y avait une grosse panique, y compris en régie. Hein. Les ondes ne marchaient pas, on n'a jamais su pourquoi exactement. Mais ça ne marchait pas, voilà.
Alors, deuxième événement, ça a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux à l'époque, c'est l'énervement de Jean-Luc Mélenchon à la fin d'une de vos émissions où il vous a pratiquement invectivé. Beaucoup de gens ont dit, beaucoup de gens dans les réseaux sociaux disent on ne comprend pas pourquoi Francis Le Tédier n'a pas réagi.
Ah ben je vais vous dire pourquoi, très précisément. Parce que vous savez qu'à France 3, on doit rendre l'antenne à la seconde pile. Parce que toutes les régions, derrière moi, reprennent l'antenne pour leur journal régional. Mmh. Et si, par exemple, l'heure de raccrochage est de 12h27 et 58 secondes, imaginons, je dois rendre à 12h27 et 58 secondes. Et il se trouve que ce jour-là, c'était la fin de l'émission. Et je ne pouvais plus. C'est-à-dire, même si j'avais répliqué, de toute façon, nous aurions été coupés. Donc, d'accord, j'aurais répliqué dans le vide et ça ne se serait pas vu. Donc, j'étais en fin d'émission. Alors, ça, c'est le premier aspect. Puis, deuxième aspect, il y a des moments où ça ne sert à rien de répliquer parce que vous entrez après dans une bataille qui n'est pas ce qu'on attend de vous. Moi, je ne suis pas là pour débattre, je suis là pour poser des questions, simplement, vous voyez. Donc, après...
Mais il vous a un peu invectivé personnellement.
Mais tous les politiques comme ça, c'est-à-dire qu'ils essayent de vous amener sur leur terrain pour que vous puissiez débattre avec eux et que vous deveniez un débatteur. Moi, j'ai pas envie d'être débatteur avec un politique. J'ai envie d'être un intervieweur. C'est pas la même chose. L'autre jour, c'était Jordan Bardella un jour dans une émission. Alors, c'était pas sur le même ton. Je lui pose une question, vous savez, sur la messe qui avait été organisée à Verdun pour une otagique de Pétain. Et il commence par me répondre en disant « J'espère que ce que vous dites là, c'est pas votre avis et que vous ne nous comparez pas à des collabos. » C'était absolument pas ce que je disais. Mais c'est une façon de ne pas répondre à la question, de mettre le journaliste en porte-à-faux et l'obliger à se positionner. Vous voyez ? Et c'est ça le piège. Il faut pas tomber dans ce piège-là.
Donc, l'affaire Mélenchon, c'est une question de temps. Vous auriez répliqué à
Alors,
votre
c'est
avis.
C'est vraiment une question de temps. Vraiment, c'est... Je pense, parce que je pense que j'aurais relancé la question, si vous voulez. Mais pas trois heures. Une fois que, bon, voilà, une fois que l'invité ne veut pas répondre, bah, vous avez fait autre chose.
On va venir, Francis Letellier, un mot avant de passer au municipal sur ce qui se passe au Proche-Orient. Je sais que vous êtes amoureux des États-Unis, entre guillemets, vous adorez ce pays-là. Quelle est votre analyse en tant que journaliste de ce qui se passe?
Ben vous savez, Jean, la dernière fois que je vous avais eu, je vous avais dit que je suis quand même assez optimiste, j'espère, et je crois que ça va pas durer, etc. Je me suis complètement trompé, j'étais trop optimiste. Et d'ailleurs, vous aviez à l'époque dit « Ah ben oui, vous êtes vraiment optimiste ». Et en effet, ce qui se passe actuellement montre que c'est un conflit qui d'abord s'étend, Proche-Orient, Moyen-Orient, et on ne voit pas la sortie. On ne voit pas la sortie de ce qui se passe. C'est absolument terrible, humainement, politiquement. Enfin bon, c'est terrible à tous les niveaux. Et évidemment, ça a des répercussions sur le débat politique français, et notamment à l'approche de la présidentielle.
Ouais,
c'est très
parler.
Intéressant.
Ouais.
Exactement, parce que la situation internationale va peser sur la présidentielle, et les candidats qui s'en sortiront sont ceux qui pourront montrer aux Français qu'ils connaissent la situation internationale.
On va en reparler, mais de façon très, très chaud comme ça, quand vous voyez tout ce qui se passe, c'est quoi votre analyse sur l'actualité, on va dire, présente?
Alors déjà, de la tristesse, parce que même si on est journaliste et qu'on regarde ça à travers des reportages, parce que je suis pas sur le terrain, à travers des dépêches AFP, parce que je suis pas sur le terrain, ou à travers des articles et des reportages en presse écrite, il y a une grande tristesse. Ce sont à chaque fois, où que ce soit, des milliers et des milliers de morts. On ne le dit pas, on est presque maintenant dans une guerre où il n'y a plus de morts. Regardez par exemple les bombardements en Iran. On parle de bombardements en Iran, mais on ne parle jamais de morts. Il y a des gens en dessous. Quand le Liban, par exemple, on commence à parler de morts, etc. Même chose quand il y a des roquettes envoyées sur Tel Aviv, par exemple. Alors, il y a moins de morts, mais il y a des morts. Je veux dire, ce sont des gens, quoi. Et ça, je trouve que, de ce point de vue, le traitement de l'information sur ce conflit est un peu déshumanisé, mais ça, c'est peut-être lié à notre époque où on parle plus de technologie d'information, comme technologie de guerre, d'ailleurs. Et ça, c'est très dommage, parce que ça, c'est ce qui fait aussi que les gens sont déconnectés, ils savent plus ce que c'est qu'une guerre. Une guerre, c'est une guerre, c'est un drame, quoi. Et je trouve que ce côté dramatique, on le voit pas assez, quoi.
Beaucoup parlent d'un temps médiatique et d'un temps de guerre qui sont pas du tout les mêmes. Vous êtes d'accord sur cette analyse? On peut pas...
Oui. Allez-y, non, je vais finir.
On ne peut pas calquer le temps médiatique avec le temps de la guerre. L'un est plus long que l'autre.
Tout à fait. Et c'est ce qui fait le drame, d'ailleurs, des chaînes d'information, parce que vous avez... Les chaînes d'information changent de thème toutes les 5 minutes. Donc, par exemple, une bombe tombe sur Israël, paf, on est en Israël. Une bombe tombe 5 minutes après en Iran, paf, on est en Iran. Qu'est-ce que vous voulez que les gens comprennent à ça? C'est presque du jeu vidéo en temps réel. Ça n'a pas de sens. Et effectivement, moi, je trouve que, du coup, le temps des médias devrait être, au contraire, le temps de la réflexion, le temps de poser les choses, quoi, et du reportage, notamment, plutôt que du commentaire. Je suis effaré de voir le nombre de commentateurs et de nombre de gens, qui d'ailleurs ne connaissent rien pour la plupart, qui sont en train de parler, alors que la télévision, dans ces cas-là, c'est le reportage qui fait foi. C'est ce qu'on voit, tout simplement, pas ce qu'on pense, ce qu'on voit.
Je suis assez d'accord avec vous. Je suis étonné du nombre de géopolitologues en France qui sont tous spécialistes du Proche-Orient, comme par hasard.
Ça c'est vrai, vous avez complètement raison. Vous avez même Nelson Montfort qui faisait du patinage artistique, qui maintenant commente sur CNews la situation internationale. Vous devenez fou.
Oui. Alors, enfin, on pourra en parler des heures, puisqu'il y a un énorme débat sur ce traitement-là de la guerre sur les chaînes d'information. On va arriver à notre beau pays, la France, avec les élections municipales. Ce qui est assez intéressant, c'est que tous les hommes politiques, à la fin de la soirée, ont dit « on a gagné ». Alors, qui a gagné, qui a perdu dans cette élection ?
Eh bien, Jean, je vais vous étonner, mais je pense qu'ils ont tous raison, ils ont tous gagné, à un niveau ou à un autre. Prenons un exemple. Le Parti Socialiste, vous avez bien passé pour le savoir à Strasbourg, a plutôt sauvé des grandes villes et même gagné des grandes villes. Ils ont gagné Strasbourg, Pau, par exemple, ou Strasbourg, exactement. Bon, ils s'en sont bien sortis. Les Républicains, ils s'en sont plutôt bien sortis aussi, même s'ils ont plus de grandes villes de plus de 100 000 habitants, ils sont quand même très très implantés sur le territoire, ils ont encore des villes bastions. Prenons maintenant le Rassemblement National. Le Rassemblement National, ils ont fait des percées, ils ont conquis des villes, notamment dans le centre de la France, Montargis, Vierzon, je vous donne des villes comme ça, parce que c'est des villes qui sont passées sous les radars, mais ce n'est pas des petites villes, hein. Ce sont des préfectures ou des sous-préfectures qui comptent dans le paysage français. Et puis, vous avez la France Insoumise qui a eu des conquêtes. Ils sont partis de zéro ville, ils ressortent avec des villes. Donc, si vous voulez, tout le monde, franchement, a vraiment gagné. Chacun à son endroit, j'allais dire.
Même les écologistes qui ont perdu deux grandes villes.
Ah oui, pardon, j'oublie toujours, je ne sais pas pourquoi. Mais les écologistes, effectivement, ont été les perdants. Vous avez raison. Les écologistes ont été perdants alors qu'ils étaient les gagnants il y a 10 ans. C'est vrai. Mais, grosso modo, pour les grands partis, les grands groupes qui comptent à l'Assemblée nationale, ils ont été les gagnants. Et ce qui va compliquer d'ailleurs la donne pour la présidentielle. Parce que là, pour le coup, c'est très, 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 très morcelé le paysage politique.
Alors, c'est la question que je voulais vous poser. Cette élection municipale, de me souvenir, c'est la première élection, on parle tellement plus des élections présidentielles que des élections municipales, alors que c'est un scrutin en général qui est local et on vote plus pour la personne que pour le parti. Comment ça s'imbrique ? Pourquoi c'est si proche comme ça ?
C'est le calendrier déjà. Le fait que les municipales aient lieu un an avant la présidentielle, c'est très rare. On n'a jamais vu ça vraiment, quoi. Donc un an avant la présidentielle, forcément, c'est un peu le dernier sondage grandeur nature, parce que les sondages, j'y crois pas, mais là, c'est un sondage grandeur nature. Les gens se déplacent pour voter avant la présidentielle. Ça donne quand même un état des lieux du paysage politique français à un an de la présidentielle.
On vote pour une personne, en l'occurrence dans les élections municipales, pour les gens qu'on connaît.
Ça dépend où. Alors, j'atténuerai ça en disant, il y a deux votes. Il y a le vote du premier tour, où, au municipal, on l'a vu dans les grandes villes, les gens votent pour une étiquette et font un choix de cœur. Et puis, au deuxième tour, où ils éliminent, comme une présidentielle. En fait, les Français se sont retrouvés dans la même situation qu'une présidentielle. Au premier tour, on choisit ce qu'on préfère, et au deuxième, on tranche, voilà. Et c'est vraiment, là encore, c'est une répétition de la présidentielle qu'on n'avait pas vue avant, parce qu'autrefois, j'allais dire, il y avait dans les villes, gauche-droite, et puis terminé. On choisit entre PS et LR, si vous voulez, pour faire simple. Mais là, maintenant, il y a des nouveaux arrivés, des nouveaux arrivants, qui font que, au deuxième tour, on se retrouve avec 4 ou 5 listes.
Ouais.
Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau.
C'est ce qui va se passer, probablement, pour les élections législatives. Un mot sur la nouvelle star des médias et de la politique, c'est le maire de Saint-Denis, Bayayoko, je crois.
Bayayoko.
C'est votre commentaire. Il est dans son rôle.
Il est dans son rôle de maire. Après, qu'il soit une star médiatique, pour être une star médiatique, ça se joue à deux.
Ouais. Ça
veut dire que les médias l'invitent et en fassent une star. Et lui, il faut qu'il accepte les invitations et accepte d'être une star. Vous voyez. C'est dans les deux cas.
C'est quand même Emmanuel Macron qui l'a invité hier.
Oui, alors, oui, parce que Emmanuel Macron était à Saint-Denis. Dans sa ville. Il était à Saint-Denis. Donc, il est normal que le président de la République aille voir le premier magistrat de la ville. Ça, c'est normal. C'est la coutume républicaine. C'est normal. En plus, il lui a transmis un message, si vous voulez, personnel. Mais normalement, c'est pas comme ça.
Alors, on en a parlé tout à l'heure, entre les élections présidentielles et les élections locales. Moi, j'avais quand même une question à vous poser sur ce point-là. Maintenant que les élections municipales sont passées, c'est quoi le paysage politique ? On a même des noms. Bardella, Le Pen, Édouard Philippe. Comment ça se prépare ?
Eh ben, vous savez quoi? Je vais attendre un petit peu avant de donner des noms. Parce que, non, je veux dire pourquoi. Parce que toutes les élections présidentielles, tous les noms qui étaient en tête un an avant ne se retrouvaient pas en position de force au moment de l'élection, même trois mois avant. Souvenez-vous, avant...
Bardella, c'est 35% quand même. Hein.
Oui, et alors Alain Juppé, il était à 35% un an avant l'élection présidentielle. Il n'a même pas passé le cap de la primaire.
Okay.
Il n'a même pas été candidat. Vous voyez, donc, c'est, franchement, on va attendre. On va attendre.
Mais il y a quand même des candidats, déjà, Darmanin, Tondelier. Moi, je voudrais vous entendre aussi sur la gauche, entre PS et LFI. C'est fini, cette accointance où on peut estimer que...
Ah non. Bah, à mon avis, non, parce qu'on a vu pendant les municipales, quand même, qu'il y avait eu plusieurs à gauche. Il y a le PS qui s'est allié avec LFI, le PS qui ne s'est pas allié... Et le PS qui a laissé la place. Donc, il y a eu trois scénarios, si vous voulez. Le PS qui a laissé la place, c'est ce que vous disiez à Saint-Denis avec Balik Bagayoko, il a éliminé le PS. Le PS qui n'a pas fait alliance avec LFI, c'est Strasbourg, ce qui a permis à Catherine Trottmann de gagner. Mmh. Et à l'inverse, le PS qui a fait alliance avec LFI, et là, c'est Nantes, et ça a permis à la maire de Nantes d'être élue. Donc, ça part, c'est vraiment à géométrie variable. Hein.
Et alors, dans la question que je posais, vous pensez que dans les jours qui suivent, la gauche, le PS, va s'arrêter de s'allier avec la LFI ou pas du tout? C'est...
Mais je crois pas, parce que je vois pas comment, parce que ce serait quoi leurs alliés? Ce serait des ex-macronistes? Je sais pas s'ils sont bankable, les macronistes, de la prochaine présidentielle, donc...
Et le candidat de la gauche, Mélenchon, Tondelier, Olivier Faure, vous avez un favori?
Alors qu'il est, on dirait Mélenchon, mais je me méfie aussi. On est encore un an avant la présidentielle. Tout peut arriver, vous savez, mais vraiment, quoi. Mmh. Vraiment. Les favoris, encore une fois, un an avant la présidentielle, vous connaissez ça comme moi, Jean, on a suffisamment d'expérience pour ça. Les favoris, un an à la présidentielle, n'ont jamais passé la ligne d'arrivée, hein. Jamais.
Mmh. Alors,
il peut y avoir une exception cette fois-ci, hein. Il y a toujours une exception, mais bon, voilà.
Alors, je veux qu'on revienne un peu sur les élections municipales. Il y a un enseignement principal, on peut dire, voilà, j'ai un résumé, ce serait lequel?
Déjà que les gens sont allés moins voter, et ça c'est quand même un vrai problème, parce que les municipales c'était quand même l'élection reine, l'élection star, après la présidentielle, et il y a eu un taux d'abstention élevé, le plus élevé de la 5e République. Et je me dis, peut-être qu'on va avoir la même chose à la présidentielle. Et c'est pour ça. Encore une fois, j'y reviens. Qu'entre ce que les gens expriment dans les sondages et ce qu'ils expriment dans leur vote, c'est pas la même chose. Un sondage, vous êtes assis dans votre canapé, vous répondez au téléphone à quelqu'un. Aller voter, c'est autre chose. Faut y aller, faut faire un choix. Il y a un côté choix définitif quand vous mettez le bulletin dans la urne. C'est pas la même chose. Et donc, moi, ce qui m'inquiète pour la présidentielle, c'est le taux de participation. Vraiment. Parce que si le futur président ou la future présidente, est élu avec seulement, imaginons, 55% de votants, là, on sera dans une situation à l'américaine, hein, où le président ou la présidente sera mal élu et où les Français ne se sentiront pas représentés. Et là, c'est la porte ouverte à tout.
Alors, je vous avais promis qu'on y reviendrait, comme quoi, dans quelques semaines, les politiques vont devoir s'appliquer sur ce qui se passe au Proche-Orient. Comment vous voyez la relation entre la France et ce qui se passe, et notamment au niveau politique,
avec la crise de l'essence? Oui. En ce moment, bon, on voit bien que les relations entre la France et Israël sont pas au beau fixe. Là, je viens de lire que Benjamin Netanyahou dit « je ne veux pas de la France dans les négociations du processus de paix », parce qu'il reproche à la France d'avoir reconnu l'État de Palestine.
Entre autres.
Oui, pas seulement, mais entre autres, effectivement. Mais ça, c'est symbolique pour lui, hein. Et ça, c'est quelque chose que aucun successeur à Macron ne remettra en cause a priori, hein. Donc, ça va être très intéressant de voir comment vont se positionner justement les futurs candidats à la présidentielle par rapport à tous les pays du Proche et Moyen-Orient, quoi. Est-ce que c'est un retour à la politique arabe qu'on a connue sous De Gaulle, ou est-ce qu'ils vont entendre qu'on est passé dans un nouveau monde et que la grille de lecture d'il y a 70 ans ne peut plus être la même aujourd'hui? C'est ça la question. C'est ça la question. Parce que quand vous avez Dominique de Villepin qui revient dans le paysage politique, avec ses principes bouddhistes, j'allais dire, la politique pro-arabe de la France. Bon, ok, très bien. Mais le paysage ayant changé, dans une campagne électorale, ça ne pourra pas être clair comme ça. Il va falloir adapter le discours en fonction de la situation internationale. On peut pas, ça ne peut pas être des positions aussi tranchées.
Donc ça va, ça va jouer dans l'élection.
Ah oui, je pense que ça va jouer. Je pense que ça va jouer parce que les Français, ok, ils regardent le prix de l'essence. D'accord, ça c'est le quotidien. Mais ils ont envie aussi d'un président ou d'une présidente qui les représente. Et même s'ils n'ont pas les tenants et les aboutissants de ce qui se passe dans le monde, et personne finalement, j'allais dire, il y a quand même, bon, il faut qu'on soit représenté dans le monde. C'est ce qui a été la marque de fabrique de Macron, souvent. Ouais. C'était de dire, au moins il saura nous représenter, et c'est ce qui a permis sa réélection au moment de la guerre en Ukraine, pour son deuxième quinquennat. Donc, bien sûr que ça compte.
Alors, on va revenir sur vous, Francis Letellier. Quand vous n'êtes pas à l'antenne le dimanche à midi, vous faites quoi? Vous êtes toujours à la rédaction? Vous travaillez?
Ah, pas toujours. C'est-à-dire que j'essaie d'avoir mes jours de repos le mardi et le mercredi, mais en général, je suis au téléphone pour caler les invités, pour parler avec les invités possibles. Et puis, le mardi, à 7h30 du matin, je suis dans la piscine et je fais mes 2000 mètres.
Voilà. Ah, c'est le seul rendez-vous que vous avez.
Ah, ça c'est un rendez-vous auquel je tiens. Puis je dis bien à 7h30 du matin, parce que comme ça, après, à 9h, je suis prêt, je suis sorti, je peux commencer ma journée. Et voilà, même si c'est une journée de repos, il y a beaucoup de choses à faire. Et ça n'empêche pas le téléphone de sonner. Donc, il vaut mieux être sorti de l'eau à 9h du matin.
Ah, oui, c'est Dieu. Alors, pour ce dimanche... on a le nom des invités déjà, ou c'est un peu
alors,
trop tôt?
Oui, j'ai l'un des invités. Vous savez que j'ai deux invités, une première et une deuxième partie. Première partie, pour l'instant, j'ai pas encore. La deuxième partie, ce sera Michel Barnier, l'ancien Premier ministre, ouais, qui voudrait bien se relancer éventuellement, et ce sera dans l'actualité, puisque c'est le week-end où les militants, les adhérents, pardon, les Républicains, doivent choisir quel sera le mode de sélection de leur candidat à la présidentielle. Donc on est en plein dedans, là, vraiment.
Alors, sélection toujours, mais à France 3. Je dois dire que j'ai été un peu surpris de la formule de France 3 cette année, c'est-à-dire d'avoir un basculement entre la région et le national. Vous avez trouvé ça normal?
Ça a toujours été comme ça pour les municipales.
Ouais.
Toujours. Mais... Ah oui, toujours. C'est parce que je faisais ça dans le temps avec Caro Guéfer, je me souviens, on fait ça depuis des années, et je pense que ce sera la même chose pour les législatives, parce que le rôle de François, c'est de montrer que les maires, par exemple, ou les députés, prenons les députés pour les prochaines législatives, sont des élus nationaux, mais aussi locaux. On élit aussi un député de cette circonscription.
Alors, c'est justement la question que je voulais poser. On va avoir législative, mais il y a la présidentielle. Comment ça va se passer pour les élus présidentielles? Vous en parlez déjà, on vous a parlé.
Alors,
on en
parle déjà, mais c'est encore un peu flou parce que le directeur de l'information, qui s'appelle Philippe Corbet, est arrivé il y a un mois et demi.
Le nouveau directeur de l'information, oui.
Ouais, le nouveau, parce qu'il y a toujours des nouveaux chez nous. Ouais. Il est arrivé il y a un mois et demi seulement. Donc là, pour l'instant, il met le paysage en place. C'est encore là, pour le coup, c'est encore un peu flou. Bon, il y a encore un peu.
Mais vous êtes partant pour une grande soirée
Toujours! Jean, vous imaginez bien, ouais. Une grande soirée, soit une grande soirée France Télé qui serait sur France 2 par exemple, ça peut être autre chose. Moi j'imaginerais bien, par exemple, je trouve que ce serait très intéressant d'avoir une soirée présidentielle France 3 que je vais vous expliquer. Parce que vous savez bien que même une présidentielle, d'une région à une autre, on ne vote pas de la même façon. Le vote dans le sud-est de la France, le vote en Alsace ou le vote dans l'ouest de la France ne sera pas le même. Or, comme ce sont les élections qui vont amener les législatives, je trouve que ce serait intéressant, au-delà de donner le nom du président, d'aller voir dans chaque région comment les régions ont voté. Parce que ce sera le baromètre pour les prochaines législatives. Et ça, je trouve que ça n'a jamais été fait. Et j'avoue que j'aimerais bien le faire.
Alors, Francis Letellier, il y a des projets jusqu'en 2017, en 2027 ou...
2027. Ouais. Le projet pour 2027, c'est d'aller jusqu'à la présidentielle.
D'accord.
Et puis après, on verra bien.
D'accord. Genre. Pas d'émission, pas de... Précision, pas rien de spécial.
Non, parce que vraiment, la nouvelle équipe de l'info là, vient vraiment d'arriver, il y a un mois et demi, hein, et en plein conflit au Moyen-Orient, donc il y a pas mal de choses à régler quand vous arrivez dans une entreprise comme ça, faut déjà prendre ses marques et tout, donc pour l'instant, on est loin des arbitrages.
D'accord.
Quoi.
Francis Letellier, je vous remercie d'avoir répondu chaque fois à notre interview, toujours très gentiment. Je souhaite une bonne journée et on se retrouve dimanche sur France 3 pour Dimanche en politique. Merci beaucoup.
Merci.